Lettre numéro 9. Lue, cachée sous un escalier, dans une école désaffectée, remplie de gens exilés, en attente d'être logés, en sirotant un verre de café au lait. Manani, mon Séméo. Cette lettre est à lire à votre arrivée sur le continent, quand vous serez en attente quelque part, un peu perdu dans le vide, car aucun lien entre vous et le continent n'aura encore été tissé. Et la suivante sera à lire quand vous partirez vers un endroit pour vous établir. Mais pour l'instant, patience. Vous êtes dans un lieu d'attente dans lequel il n'y a sans doute aucun confort, un peu les uns sur les autres, et vous vous demandez ce qui va vous arriver.
Ma chérie, tu peux faire venir à toi tout ce dont tu as besoin, mais pas en pleurant, pas en revendiquant, pas en ronchonnant. En prenant ton courage à deux mains et en affrontant tes limites. C'est-à-dire en t'asseyant là où tu crois que ta vie s'est arrêtée et en lui faisant confiance. En attendant, en écoutant, en respirant, en chantant éventuellement. La vie est ta meilleure amie, Nani. La vie veut que tu vives et pour t'y pousser, elle a beaucoup de tours dans son sac. D'ailleurs, parfois, elle a recours à la magie. Tu verras, si tu suis cette règle-là, quelque chose d'extraordinaire se passera qui ouvrira la porte à l'espoir. Mais que voilà une leçon difficile à faire comprendre à ma petite fille de 8 ans et demi. Laisse-moi te l'illustrer en reprenant mon histoire. Donc, j'avais 10 ans quand la voiture que mon père conduisait a basculé dans un ravin. Mes parents ont été tués sur le coup, ainsi que mes jambes et ma joie de vivre. J'étais immobilisé. Je refusais tout ce qui était arrivé et j'étais odieux avec mon oncle Haru, le frère aîné de mon père qui, à la suite de la disparition de mes parents, avait décidé de m'adopter. Refusant de continuer à vivre, je repoussais son affection, sa nourriture, son aide. Je le harponnais avec des mots méchants chaque fois qu'il m'approchait. J'étais plus teigneux qu'un porc-épic, et je pleurais toutes les nuits. J'avais sombré au fond de l'océan infini, dans les abysses où n'arrive pas le soleil. J'appelais la mort, je voulais qu'elle me saisisse.
Mais par chance, mon oncle Haru n'était pas d'accord. Et si j'étais porc-épic, lui avait la patience et la ténacité des pécans, ces martres qui arrivent à attaquer les porcs-épics et à venir à bout de leurs piquants. Donc, un matin où je broyais du noir, il me proposa une sortie dans les montagnes de l'île. Et comme je refusais de me changer les idées, il m'empoigna de force et m'attacha dans sa voiture malgré mes hurlements. Contraint, puisque mes jambes ne me permettaient plus de m'enfuir, j'acceptais alors son pique-nique, à condition qu'il ait lieu au-dessus du ravin qui m'avait ravi ma famille. J'ignorais de quelle façon j'allais me venger, mais je voulais affronter ce trou dans la terre. Je voulais le défier dans un combat singulier. Peut-être avais-je envie de m'y jeter. En tout cas, je prévoyais de l'insulter, et ça promettait d'être grossier. J'en avais gros sur le cœur. L'oncle Larou hésita, puis accepta, et on partit avec un plein panier de victuailles. Parvenu à l'endroit fatidique, il m'assit à quelques mètres du ravin. Mais je voulais être plus près. Tête de lard, je réussis à me traîner, et alors qu'il essayait de m'appâter avec son cochon grillé, je sentis monter en moi un immense silence singulier. Était-ce l'âme de mes parents qui était là? Je ne sais pas, mais dans l'espace de ce silence, j'entendis gémir au loin et tout en moi se figea. Je cessai aussitôt de respirer, puis je questionnai Haru. « Mon oncle, n'entends-tu pas des plaintes ?» Il rétorqua.
« Ce sont les tiennes. »
J'insistai. « Je t'assure, écoute, il y a quelqu'un qui appelle. » Il vint s'asseoir près de moi. Lui n'entendait rien. Je le suppliais de descendre. Un doute le prit, il réfléchit.
Que me donneras-tu en échange?
Et il ajouta.
Vu la pente, je te préviens, il faut que ça vaille le coup.
Je lui promis alors de déposer mes épines. À compter de cet instant, je ne serai plus porc-épic. Il me toisa et vit que je disais vrai.
L'oncle Haru trimbalait toujours une très longue corde dans sa voiture. Vu le nombre de ravins qu'il y avait dans l'île, il estimait que c'était un outil indispensable. Il la noua au pare-chocs de son véhicule et, accroché à elle, descendit. Les pierres roulaient sous ses pieds. J'avais le cœur suspendu. Il remonta plus tard avec quelque chose contre son flanc, sous sa chemise, que je ne vis pas tout de suite. C'était un chiot adorable. Pauvre petit, ses quatre pattes étaient brisées. Il ne pouvait pas bouger. Dans l'instant, mon cœur bondit vers lui. Je quittais d'un coup les abysses. Tu connais la suite, Nani. Je le nommais Kousmine. Il devint mon ami, mon frère. Je le soignais en chantant pour lui. Et, des heures durant, le caressait sur mon cœur. Je l'aimais plus que moi-même, et cet amour me soigna.
Un mois plus tard, Kousmine courait à nouveau, partout comme un fou, et mon cœur le suivait. Il était devenu le prolongement de moi-même. Grâce à lui, je recourais en pensée. J'avais retrouvé le goût de vivre. Certaines personnes au village affirmèrent que ce chien m'était tombé du ciel. Ils avaient peut-être raison, à ceci près que le ciel est en nous, Nani. Et si on a besoin de son aide, il faut le forcer un peu. C'est-à-dire ne pas se rouler en boule dans sa peine, quitter le centre de sa tristesse et s'asseoir le cœur patient au bord des yeux. Là où on pense que les choses se sont arrêtées. Car la vie ne s'arrête jamais. Elle est partout autour de toi, si tu te laisses attraper. Tu ne le sais pas encore, mais tu es très puissante, Nani. Tu as le pouvoir de forcer l'amour. Ipa et Ipa Mano.